Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, épilogue. 6 février 2014. Anthony contempla longtemps les vagues rouler à l'horizon. Quelques personnes qu'il avait vues jeter son téléphone dans la mer le regardaient avec stupéfaction. Il ne les remarqua pas. Depuis son retour précipité du Congo, il n'avait pas dormi ni mangé. Ses cheveux ébouriffés et son teint pâle lui donnaient une allure cadavérique, accentuée par le fait qu'il portait des vêtements légers, alors que le vent froid transperçait les manteaux les plus épais. Il avait le sentiment de se transformer en minéral, petit à petit. Il ne ressentait plus rien. Son corps était de pierre. La métamorphose avait commencé dans l'avion qui l'emmenait avec Audrey sur les lieux d'extraction du coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des composants électroniques. Le pays était en situation de guerre civile, et celle-ci n'était pas étrangère à l'exportation massive de matières premières et à l'exploitation des populations locales. Seule une force armée pouvait maintenir le contrôle d'une population dont les enfants étaient réduits à l'esclavage pour prélever les richesses incroyables d'un pays qui n'en profiterait jamais. Après quelques jours de négociations avec les différentes ambassades, escortées par une délégation militaire, Audrey et Anthony ont pu visiter des mines insalubres dans lesquelles les conditions de travail étaient inimaginables pour des Occidentaux. Lorsqu'ils approchaient des puits, ils pouvaient voir les plus jeunes s'enfuir en courant à travers les collines, prévenus par leur contremaître d'une visite impromptue de blancs qui ne devaient rien savoir de leur présence ici. Dans les documents officiels, bien sûr, tout était parfaitement clair. Seuls travaillaient ici des adultes, et leurs horaires, leurs conditions de travail étaient compatibles avec le cahier des charges de leurs clients. Ce qui se passait vraiment sous leurs pieds, au fond des boyaux noirs et empoisonnés de la mine, leur restait totalement inaccessible, et si d'aventure ils essayaient d'en savoir plus en interrogeant un ouvrier, en demandant à descendre au fond du trou, ce sont les militaires eux-mêmes qui s'interposaient pour des raisons de sécurité, arguait-il. Anthony comprit rapidement qu'il était proprement impossible de s'assurer d'un prélèvement éthique de ces matières premières, et ce dans tous les pays producteurs qui, comme par hasard, s'avéraient tous être des semi-dictatures ou des régimes instables noyautés par les puissances commerciales occidentales. Loin des yeux des téléspectateurs consommateurs, on assassinait, on pillait en leur nom. Les conséquences étaient catastrophiques sur la santé des populations, sur l'état de leur régime politique, puis ensuite sur l'environnement dans lequel on retrouvait les déchets de toutes ces richesses prélevées dans des conditions déplorables. Le dysfonctionnement était global, on marchait sur la tête, on bafouait l'humanité entière en laissant faire ce genre de choses pour assouvir nos futiles besoins. Anthony, désabusé et meurtri par ce qu'il avait vu, chercha des solutions auprès d'Audrey. Mais si elle aussi avait été choquée par ces visites, elle continuait de croire à la fable que nous nous racontions volontiers, en Occident, pour excuser tous nos crimes. Ce faisant, nous participions au développement des pays, sans quoi ils ne survivraient simplement pas. Dans l'hôtel climatisé pour touristes où ils étaient descendus, Anthony refusa de manger. Au lieu de ça, il tourna en rond dans sa chambre avec une détestable envie de vomir et la sensation désagréable d'avoir les mains sales, au sens propre comme au figuré. Il tenait un morceau de coltan qui s'effritait au contact de la sueur de ses mains. Combien d'enfants avait-il exploité au cours de sa vie de consommateur occidental? Combien d'entre eux mourront, les poumons intoxiqués par les poussières de ce minerai? Et pour enrichir combien de blancs comme lui, négriers des temps modernes, présentés en exemple dans les magazines et sur les plateaux télé? Il jeta le caillou contre le miroir de la salle de bain où il ne supportait plus de voir son reflet. Il se brisa en mille morceaux et Anthony regretta immédiatement son geste. Il se saisit, impuissant, de l'un des morceaux du miroir, et se coupa au doigt qui saigna abondamment. Le liquide rouge s'écoula dans le lavabo, entre les morceaux de verre. Il décida de partir sur le champ. Il croisa Audrey dans le couloir de l'hôtel tapissé de moquettes épaisses et s'arrêta à sa hauteur. « Je rentre en France, » commença-t-il, en osant à peine la regarder. « Comment ? Mais nous avons d'autres... »« Audrey, j'en ai assez vu. Je démissionne. » Tu ne peux pas, tu as un contrat, tu dois... Stop! Je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec l'idée qu'on participe à ce massacre. Je ne sais pas comment des centaines d'industriels et de commerciaux parviennent à l'oublier quand ils rentrent en France, quand ils embrassent leurs enfants le soir. Mais moi je ne peux pas. Simplement je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici, s'emporta-t-elle soudain? Tu découvres la vie sur Terre? Tu fais preuve d'une naïveté confondante. Tout le monde sait ce qu'il se passe ici. tout le monde. Mais on fait avec, on l'accepte parce qu'on ne peut pas faire autrement. Moi aussi je souhaite que tous les enfants soient heureux, la paix dans le monde et tout ça. Mais on est qui pour changer le monde? On peut faire quoi? Tu crois que ta petite copine va changer le monde? Elle va s'y prendre comment? Vas-y, explique-moi, dit-elle en lui prenant le bras. On peut déjà cesser de le cautionner, hurla-t-il. Puis il reprit plus bas, en entendant du bruit dans les chambres voisines. Bien sûr, on est tous coupables, et pourtant individuellement incapables de s'en sortir. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire, ne serait-ce que pour soulager nos consciences. Audrey se tut et observa le regard d'Anthony. Il était clair et déterminé, comme s'il venait de retirer des lunettes qui l'empêchaient jusqu'ici de voir le monde tel qu'il est. Des lunettes qu'elle portait toujours et qui la condamneraient à rester dans la réalité virtuelle du confort matériel à tout prix. Elle lâcha son avant-bras et regarda le sol. Elle chuchota. « Vas-y. » L'attente à l'aéroport fut interminable. Entre le décalage horaire et le trajet qu'il devait parcourir pour rejoindre Brest depuis Paris, Anthony était incapable d'estimer l'heure de son arrivée. Mais il savait en revanche que Marion allait partir sous peu, et il devait impérativement la voir avant son départ pour lui annoncer sa démission. Une bourrasque de vent le fit revenir au présent. Le souvenir de ses dernières heures réveilla la douleur à sa main, dans laquelle il tenait un mouchoir ensanglanté. Il regarda la plaie qui s'était finalement refermée, sans rien ressentir. Ce n'était qu'un détail à côté du chagrin qui bouleversait son cœur. Marion l'observait depuis quelques minutes. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer, elle avait reconnu sa silhouette au loin. Il portait une chemise claire qui volait derrière son dos. Elle s'était approchée doucement et avait marqué un temps d'arrêt quand il avait jeté son téléphone. Elle ne lui connaissait pas cette violence. Elle était nouvelle. En s'approchant encore, elle remarqua le tissu rouge dans sa main et crut d'abord qu'il avait tenté de s'ouvrir les veines. Mais lorsqu'il regarda sa blessure, elle n'était plus qu'à quelques mètres dans son dos et fut rassurée. « C'est interdit de jeter des appareils électroniques dans la mer, commença-t-elle. » Il ne réagit pas tout de suite. Le vent dans ses oreilles couvrait la voix de la jeune fille. « Après, on retrouve ça à l'autre bout du monde, dans le ventre des poissons. Et qui est-ce qui mange les poissons? C'est nous. » Il se retourna lentement, ses cheveux et les pans de sa chemise portés par le vent changèrent de direction. Il sourit un peu, puis cessa. Il fit quelques pas en arrière, hésitant, avant de courir en direction de la mer. Marion l'appela en vain. Elle lui hurlait de revenir, mais il courait et courait encore plus vite vers le port. Arrivé au bord du quai, il sauta dans l'eau glacée et disparut. Marion courut vers lui et s'arrêta à son tour au bord du quai. Elle examina la surface de l'eau agitée par la houle. De l'écume qui se formait autour des pontons de béton l'empêchait de distinguer d'éventuelles bulles d'air remontant à la surface. L'eau était noire et trouble. On ne devinait pas le fond qui pouvait être à plusieurs mètres. Elle se mit à paniquer et appela Anthony de toutes ses forces, mais sa voix s'étranglait dans le puissant vent venant du large. Avant que ses cris n'attirent l'attention des gens autour, elle crut voir une masse blanche remonter à la surface. Elle retint son souffle, comme si c'était elle qui subissait l'apnée. La tête d'Anthony surgit des flots comme un ballon. Il s'approcha du mur où Marion s'était agenouillée et pleurait maintenant. Il agrippa les échelons qui longeaient le mur et vint à sa hauteur. Les vêtements dégoulinants et quelques algues pendues aux épaules. Dans sa main blessée mais redevenue propre au contact de l'eau salée, il tenait les restes de son téléphone en plusieurs morceaux. Il lui montra l'appareil en disant « Je ne tiens pas à ce que tu retrouves un morceau de ma coque dans l'œsophage d'un de tes manchots. Tu me l'aurais reproché toute ma vie. » Elle l'aida à monter sur le quai. Sa peau était glacée mais paradoxalement, il paraissait bien plus vivant qu'il y a quelques minutes. « Te voilà fin prêt pour affronter les rigueurs du climat polaire, » dit-elle. « Tu as pu me garder une place pour le voyage ?»« Il va falloir négocier avec le responsable de la mission, mais tu es commercial, tu as appris tout ça mieux que moi. »« Où est-il ? Qui ça ?»« Ben, le responsable. On part à quelle heure ? Il faut se dépêcher ?»« Il est en face de toi. »« Dans ce cas, j'abandonne. On ne peut rien négocier avec toi. »« Minute, monsieur l'industriel pollueur. Faites d'abord voir vos arguments. » Elle fit un pas en arrière. Elle observa de pied en cap. Il fit tomber les morceaux d'algues qu'il avait encore sur les épaules et se redressa pour faire bonne figure. Il cacha les débris de téléphone derrière son dos, sa chemise transparente sculptait les moindres détails de son corps, ce qu'elle apprécia visiblement. « Très bien. Avec des vêtements propres, vous devriez convenir. Mais je n'ai pas de bagages, donc pas de vêtements. J'en ai quelques-uns dans ma valise qui pourront aller. Tu as pris des vêtements à moi, dans ta valise? J'avais besoin de ton odeur sur moi. » « Mon odeur, c'est tout ce dont tu as besoin ?»« Non. »« Quoi d'autre » demanda-t-il en s'approchant d'elle. Tu sais que j'adore faire pousser des trucs comme des myosotis en forme de cœur. Oui, et... Elle se laissa enlacer et posa la joue sur sa poitrine humide et glacée avant de continuer. La prochaine graine que je veux faire pousser, c'est toi et toi seul qui peux me l'offrir.